Bonjour à toutes et à tous, je suis Pascal Lau, le président de l'association NoRH.com. Pour ce 41e rendez-vous technique RHFPT, je vous parlais aujourd'hui du projet de loi d'urgence sanitaire et plus précisément des deux mesures phares qu'il contient, à savoir l'obligation vaccinale pour certains agents publics, mais également l'instauration d'un pass sanitaire et de ses conséquences sur le fonctionnement des services publics locaux. Attention, l'ensemble des dispositions que j'évoque par audio ce jour avec vous ne seront promulguées pas avant le 5 août 2021, date à laquelle le Conseil constitutionnel doit étudier le texte de projet de loi d'urgence sanitaire. Dans la nuit de dimanche à lundi, les députés ont donné leur accord après les sénateurs qui s'étaient prononcés en début de soirée au projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire tel qu'issu de la commission paritaire. Le gouvernement a accepté de revenir sur plusieurs dispositions phares du projet de loi initial, acceptant notamment le refus de tout licenciement en cas de non-présentation du pass sanitaire ou de non-respect de l'obligation vaccinale, la fin du régime d'exception avancé au 15 novembre 2021, sauf nouveau vote du Parlement, et le report du couperet du 15 septembre 2021 au 15 octobre 2021 pour les professionnels déjà engagés dans une démarche vaccinale. Mais la saga n'est pas pour autant terminée, puisque plusieurs recours devant être déposés sur ce texte, le Conseil constitutionnel a d'ores et déjà annoncé qu'il rendrait sa décision le 5 août prochain. Focus sur la vaccination obligatoire de certains personnels et les règles relatives aux salariés et agents ne pouvant ou ne voulant s'y soumettre. Pour la vaccination obligatoire contre la Covid-19, pour les professionnels au contact des personnes fragiles. Le projet de loi, dans son article 5, prévoit une obligation de vaccination contre la Covid-19 pour différentes catégories de personnes selon leur activité ou le lieu d'exercice de celle-ci. Ces personnes sont soumises à cette obligation au titre du rattachement de leur activité ou du lieu d'exercice de celui-ci avec le secteur sanitaire ou le secteur médico-social. Par cette obligation, il s'agit de renforcer la protection contre la Covid-19 des personnes les plus fragiles, particulièrement les personnes âgées, en assurant la couverture vaccinale de leur environnement. Les maisons départementales des personnes handicapées, les services de PMI, hors médecins, les services départementaux de l'ASE, ainsi que les personnels non médicaux des collèges ne sont concernés par l'obligation vaccinale de leur personnel, mais pourraient être visés par l'extension du pass sanitaire prévu à l'article 1er et qui devra faire l'objet d'un décret dès promulgation de la loi. L'obligation couvre les établissements de santé et ce, quel que soit leur statut public, privé ou privé d'intérêt collectif, et intègre les hôpitaux des armées. Pour ces établissements, comme pour les établissements des autres items suivants, il est important de souligner que l'obligation vaccinale s'applique bien à l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans l'établissement. Concrètement, cette obligation ne concerne donc pas les seuls soignants, mais bien aussi les personnels administratifs, même s'ils n'entrent pas en contact avec les patients ou le public. En outre, sans concerner l'ensemble des personnes exerçant leur activité au sein de l'établissement, et non les seuls personnels de l'établissement. Des prestataires extérieurs intervenant régulièrement dans l'établissement, pour des missions d'entretien ou de restauration par exemple, sont dans ce champ. Sont visées différentes structures de santé. Centres de santé, maisons de santé, centres et équipes mobiles de soins, centres médicaux et équipes de soins mobiles des armées, ou encore les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes, centres de lutte contre la tuberculose, les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic, les services de médecine préventive et de promotion de la santé en milieu universitaire et les services de santé au travail. Certains établissements et services médico-sociaux, parmi ceux mentionnés à l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles, établissements et services habilités de l'ASE, les logements foyers, les résidents services et les habitats inclusifs sont notamment inclus dans ce champ les établissements d'hébergement et d'accueil des personnes âgées dépendantes, EHPAD. L'obligation vaccinale concerne l'ensemble des professionnels de santé, le champ couvert étant très large pour les professionnels de santé, sans distinguer ceux qui exercent en établissement de ceux qui exercent en ville, en cabinet libéral. Le texte renvoie à la quatrième partie du Code de la santé publique relative aux professionnels de santé, intégrant ainsi les professions médicales, à savoir médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, les professions de la pharmacie, à savoir pharmacien, préparateur en pharmacie et physicien médical, les professions paramédicales ou auxiliaires médicaux, à savoir infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicure-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes et orthotistes, manipulateurs d'électroradiologie médicale, techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers de prothésistes, orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées, diététiciens et enfin les aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires. D'autres professionnels du soin ou au contact des personnes vulnérables sont concernés par l'obligation au regard de leur activité. Ainsi sont concernés les psychologues, ostéopathes et psychothérapeutes, les étudiants et élèves de l'ensemble des professions mentionnées, ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que ces mêmes professionnels sont également concernées par l'obligation vaccinale. Sont intégrés par exemple les secrétaires médicaux des cabinets médicaux. Cette rédaction emporte les personnels par exemple chargés régulièrement de l'entretien des locaux. Sont concernés les professionnels employés par un particulier employeur s'ils effectuent des interventions à domicile de personnes attributaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap, c'est-à-dire les professions comme les aides à domicile, mais seulement dans le cas d'une intervention au domicile d'une personne dépendante ou en situation de handicap. Sont concernés les sapeurs-pompiers et marins-pompiers des services d'incendie de secours, étant concernés les sapeurs-pompiers militaires, professionnels et volontaires, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile, les militaires de manière permanente sur des missions de sécurité civile et les membres des associations de sécurité civile. Le texte vise enfin les personnes assurant les transports sanitaires ou transports pris en charge, ainsi que les prestataires et distributeurs de matériel en appui au retour à domicile et à l'autonomie. Pour autant, le texte prévoit expressément les exclusions des intervenants ponctuels. L'obligation prévue ne s'applique donc pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des établissements ou locaux où exercent les professionnels concernés. Il s'agit là de permettre par exemple l'intervention occasionnelle des personnels extérieurs de maintenance. Ces derniers relèvent alors le cas échéant du pass sanitaire applicable dans certains établissements de santé sociaux ou médico-sociaux. À noter que les travailleurs handicapés accueillis en ESAT sont exclus également de l'obligation par le texte. S'agissant de l'entrée en vigueur, l'article 5 ne prévoit pas de date, ce qui rendrait l'obligation d'application directe dès le lendemain de la promulgation de la loi. Cependant, l'article 7 du projet de loi, qui prévoit les conséquences directes du non-respect de l'obligation vaccinale, ménage une période transitoire jusqu'au 15 octobre 2021 pour les personnes dont le schéma vaccinal est engagé mais incomplet. Pour la période allant de l'entrée en vigueur de la loi jusqu'au 14 septembre 2021, les professionnels pourront continuer d'exercer leur activité même s'ils ne présentent pas un justificatif de statut vaccinal complet ou un certificat de rétablissement complet en présentant soit le résultat négatif d'un test virologique, soit le justificatif de l'administration des doses requises sans être tenu d'être testé jusqu'à l'expiration de la période prévue par la réglementation pour bénéficier d'un statut vaccinal complet. En l'espèce, 28 jours après l'administration d'une dose de vaccin Janssen ou 7 jours après l'administration de la deuxième dose des autres vaccins autorisés ou de la dose unique requise pour les personnes déjà infectées. À compter du 15 septembre 2021, les professionnels pourront, à titre dérogatoire jusqu'au 15 octobre 2021, continuer d'exercer, même s'ils ne justifient pas de l'ensemble des doses requises, en cas de schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, à la condition de justifier de l'administration d'au moins une des doses requises par la réglementation, sous réserve de présenter le résultat pour sa durée de validité d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas pas à une contamination par la Covid-19. À l'issue de cette période dérogatoire, tous les professionnels concernés par l'obligation vaccinale devront, pour continuer à exercer, justifier soit de l'administration des doses requises, soit d'une contre-indication médicale à la vaccination. Conséquence du manquement à l'obligation vaccinale en matière d'activité. À l'article 7, le texte retient, pour les personnes qui ne seront pas en mesure de présenter, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, les justificatifs requis, une suspension de leurs fonctions ou de leur contrat de travail sans rémunération. Il pose l'obligation pour l'employeur, dès la constatation de la non-présentation des justificatifs requis pour la poursuite de l'activité, d'informer sans délai et par tout moyen le professionnel des conséquences qu'emporte cette situation sur son emploi, notamment la suspension du contrat de travail qui en découle, mais aussi les moyens dont dispose le professionnel pour régulariser sa situation. La suspension ne peut être assimilée à une période de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés, ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté. Pour le salarié ou l'agent public suspendu, le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaires auxquelles il a souscrit est maintenu, notamment les garanties minimales prévues à l'article L911-7 du Code de la Sécurité sociale, destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, ainsi que le cas échéant, les garanties à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès. À noter que la création d'un motif spécifique de licenciement qui pourrait être tiré de l'impossibilité pour le professionnel d'exercer son activité pour une durée supérieure à 2 mois en raison du non-respect de l'obligation vaccinale a finalement été retiré du texte. Enfin, pour les professionnels de santé qui ne se soumettraient pas à l'obligation vaccinale et exposeraient leurs patients vulnérables à des risques de développer des formes potentiellement graves de la Covid-19, le texte charge l'Agence régionale de santé de les signaler au Conseil de l'ordre de rattachement de ces professionnels à raison d'une interdiction d'exercer en raison d'une non-satisfaction à l'obligation vaccinale constatée de plus de 30 jours. Concernant les sanctions pénales prévues dans le cadre de l'obligation vaccinale, l'article 8 définit les sanctions pénales applicables aux professionnels qui méconnaîtraient leur interdiction d'exercer et celles applicables aux employeurs qui méconnaîtraient leur obligation de contrôler le respect de l'obligation vaccinale des professionnels placés sous leur responsabilité. S'agissant des sanctions pénales applicables aux professionnels qui méconnaissent l'interdiction qui leur est faite de continuer à exercer leur activité s'ils ne présentent pas les justificatifs requis pour la poursuivre, elle sera passible de fermeture administrative provisoire ou de l'amende prévue par les contraventions de 4e classe, 635 €. En cas de récidive au-delà de 3 violations verbalisées dans un délai de 30 jours, cette sanction peut être portée à 6 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. S'agissant des sanctions pénales à l'encontre des employeurs qui méconnaissent l'obligation de contrôler le respect de l'obligation vaccinale pour les personnes soumises à cette obligation et placées sous leur responsabilité, cette méconnaissance sera punie de l'amende prévue par les contraventions de 5e classe, soit un montant de 1 500 €. Toutefois, cette contravention pourra faire l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire qui ramènerait le montant de l'amende à 200 €. En cas de récidive, au-delà de 3 violations verbalisées dans un délai de 30 jours, les faits seront punis d'un an d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende. Par ailleurs, il est prévu d'exempter de ces sanctions les particuliers employeurs bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, APA, et de la prestation de compensation du handicap, PCH, qui recourent aux services de professionnels d'aide à domicile. Concernant les autorisations d'absence pour se rendre à un rendez-vous de vaccination, l'article 9 prévoit une autorisation d'absence sans perte de congé ni de rémunération pour un salarié se rendant à un rendez-vous lié à sa vaccination et non nécessairement soumis à obligation vaccinale. Le projet de loi prévoit une autorisation d'absence accordée aux salariés et agents publics pour se rendre au rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre le SARS CoV-2. Il précise la neutralité de ces absences sur la rémunération, sur le temps de travail, ces absences étant décomptées comme du temps de travail effectif sur le droit à congé et sur les autres droits acquis au regard de l'ancienneté. Enfin, le projet de loi applique ce régime d'autorisation d'absence au rendez-vous de vaccination contre la COVID-19 des mineurs, dont le salarié ou l'agent public est le parent ou le représentant légal. Pour la vaccination des mineurs confiés à l'ASE et des MNA, à l'article 1er relatif à l'extension du pass sanitaire et afin de faciliter la vaccination des mineurs, le projet de loi prévoit que lorsqu'un mineur âgé d'au moins 12 ans est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, le président de la collectivité chargée de ce service peut autoriser sa vaccination s'il est titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, invité à donner cette autorisation, n'ont pas répondu pendant un délai de 14 jours après cette invitation. Que pour les mineurs non accompagnés, cette autorisation peut être délivrée par le juge qui statue en urgence. Le projet de loi ne précise pas à quel moment, phase d'évaluation et de mise à l'abri, ou celle de prise en charge par l'ASE après reconnaissance de minorité, il peut être fait usage de cette faculté. Merci pour votre écoute, pour cet audio qui était tout de même assez long. N'hésitez pas à vous référer aux articles publiés quotidiennement sur le blog nosrh.com pour savoir et connaître précisément l'évolution des dispositions du texte après examen par le Conseil constitutionnel le 5 août prochain. N'hésitez pas non plus à faire appel à la ligne Conseil statutaire RH FPT 24h sur 24 proposée par le blog nosrh.com. Tous les renseignements nécessaires à l'adhésion de son service sont en ligne sur le blog pour vous aider dans le fonctionnement quotidien qui sera le vôtre à partir de la publication de ce projet de loi de gestion de crise sanitaire. À très bientôt. Au revoir.